Samedi 8 août 1914. Des courants d'air frais se faufilent soudain dans le train. Alphonse frissonne. Marseille, si loin, est digne au bout du monde. Dehors, de la brume grisâtre se glisse au-dessus des haies, autour des fermes et des étangs, longés par le convoi qui avance, comme au ralenti, au cœur du petit matin. Calé contre son paquetage, assis en chien de fusil, le caporal Richard absorbe le silence noir qui enveloppe l'âme de chacun de ses camarades, vautrés là tels des animaux fragiles, dans ces wagons qui tanguent et moulent les corps. Assis en paquet, ils attendent, visages ternis de crasse et posés à contre-jour, silhouettes brouillées. Ces soldats se balancent au rythme du convoi, comme abstraits du monde. Chacun s'emplit des sursauts métalliques qui agitent le wagon et ressassent à l'intérieur de son crâne les images de la remontée vers la Lorraine. Les gouttes tièdes se sont mises à tomber dès le trajet à pied de la caserne vers la gare. Une de ces pluies d'orage qui vient vous claquer à la face et vous empêche de sombrer dans la torpeur posée par la chaleur sur chaque parcelle de vie. Sous des seaux d'eau, Alphonse a marché, le sourire aux lèvres, plongé dans le souvenir délicieux du pays, lorsque ses orages le surprenaient au jardin, éclaté au-dessus du clapier, et le trempait de la tête aux pieds en deux temps, trois mouvements. Il a fourré son appareil photo au fond de l'une des poches de sa capote. Pour le protéger, il l'a roulé dans un large mouchoir à carreaux bleus, et toutes les cinq minutes, il y a plongé la main pour vérifier qu'il ne s'était pas envolé. Avec tendresse, il a observé ses camarades, aux lèvres tendues vers le ciel, pour s'abreuver de cette pluie d'août bienfaisante, comme dans une prière au dieu de l'été. Une fois sur le quai, il s'est posé à l'abri du grand hall métallique de Saint-Charles et il n'a pas résisté au désir de les photographier. Ensemble, cette fois-ci, regroupés comme ils le seraient au front lorsque sonnerait l'heure de la grande explication. Quelques soldats se sont fait un peu prier avant de lisser leurs moustaches et de prendre la pose, le regard vissé au rail avec angoisse. Sur leur visage luisant de sueur et grimaçant, Alphonse a déchiffré l'angoisse sourde portée par ces rails. Tantôt, ces longes de métal les mèneraient vers le feu, vers le danger, vers des terres qu'ils imaginaient gorgées d'eau marécageuse, de pièges et de maléfices. Pour poser, certains ont ressorti leur objet fétiche de leur poche. La mésange de Marius lui a échappé des doigts. Elle s'est offert quelques battements d'ailes vers les trains voisins avant de revenir se blottir contre le cou de son maître. Il n'a même pas eu peur qu'elle s'enfuie, non. Il savait que sa place était là, parmi ces hommes en route vers le nord. C'est ainsi qu'il nommait le terme de leur migration forcée vers l'ennemi. Alphonse a vu passer sur le visage de chacun une ombre fugace de tristesse lorsque la machine s'est élancée vers les faubourgs de Marseille. Pas un mot ne s'est échappé des wagons. Pas une parole n'est tombée des fenêtres ouvertes où les soldats du 3e régiment d'infanterie s'étaient massés pour regarder s'éloigner le troupeau de femmes et d'anciens venus les saluer, puis voir disparaître les toits de tuiles et la bonne mère et son Jésus tout là-haut face à la mer, aussi figés sur leur but que de gros santons.
Garde à vous !
La Lorraine, à présent, elle est là. Ils y sont. Diarville. C'est marqué sur le panonceau de la gare minuscule où la locomotive a stoppé son élan. Ce bout de Lorraine est comme enserré dans un décor de tissu gris, un habit de brume déchiré par la voix aiguë de l'adjudant. Lorsqu'il hurle son ordre, les hommes sursautent. Saisis par cet aboiement soudain de bêtes guerrières, ils n'ont pas l'habitude. Même les bergers ne connaissent pas ce cri sauvage.
« Soldats, saluons comme il se doit notre Lorraine. Les Boches l'ont volée à la patrie. Nous allons la reprendre. C'est notre devoir, notre volonté. Ce sera notre gloire. »
Alphonse se souvient des leçons d'histoire à l'école et de la grande carte cartonnée avec les régions de France bien dessinées. Monsieur Paul l'accrochait au tableau et de sa longue baguette, il désignait le territoire strié de traits noirs sur fond brun, en haut, à droite. Il racontait comment l'Empire allemand s'était accaparé une partie de la France après sa victoire de 1871. L'Alsace et la Lorraine, si loin des basses Alpes, il se disait alors. Alphonse se repasse la voix chaude de son instituteur, calme et assurée. Elle donnait envie d'apprendre et de voyager. Jamais la guerre n'y trouvait place, excepté lorsque M. Paul s'emportait contre ses élèves qui osaient encore parler patois dans la cour de l'école. Il les condamnait sur le champ. Pas question de parler provençal à l'école de la République. Et voilà qu'à présent, cette terre lorraine à reconquérir, Alphonse Richard la foule de ses godillots. La troupe est descendue du train et elle reste figée dans l'attente d'un nouvel ordre, là, sur ce quai de Diarville, saisie d'humidité. L'adjudant semble pétrifié de froid, la main droite collée à la tempe, dans un salut qui s'adresse plus au drapeau du régiment qu'à ses soldats provençaux qui grelottent sur pied, le fusil à la poitrine et le menton en avant. Alphonse s'est placé vers le fond, comme il le faisait en classe, histoire de contrôler la situation. Il a une idée derrière la tête. Crânement, il troque le fusil contre le vest-pocket. L'arme repose sur sa crosse et la baïonnette contre un large poteau métallique qui l'isole du magma des soldats. Dans son viseur, il a tout. Les képis rouges en enfilade, les fusils dressés, la vapeur de chaleur bestiale qui s'échappe des épaules et des cous statufiés, le drapeau bleu-blanc-rouge brandi par un gros soldat trapu, l'adjudant à l'arrêt, et au second plan, la locomotive inondée de pluie qui relâche de petits nuages de fumée blanche après son long voyage depuis Marseille. Alors Alphonse déclenche. Au moment où le clic lui saute aux oreilles, lui parvient en écho le son lointain du canon qui descend des coteaux voisins. Un coup, puis un autre, porté par un vent timide où traîne le cri lugubre d'un corbeau.